Bonjour chers auditeurs, nous sommes le groupe de littérature et société de seconde et aujourd'hui on va parler de l'information et de ses caractéristiques, puis on va enchaîner avec les comparaisons du journalisme au 19e siècle et on reviendra aujourd'hui pour parler de la désinformation à travers un phénomène très à la mode, la fausse information, la fake news. Donc aujourd'hui je suis accompagnée par Nadine, Léa et Maram et Léa, selon toi c'est quoi une information ?
Donc, une information doit être complète, elle doit contenir toutes les facettes et elle doit être récente, donc à jour ou encore valable.
Maram, as-tu des choses à dire pour compléter ?
Donc, une information apporte quelque chose qui doit concerner le public à qui elle est destinée. Et elle se distingue également d'une rumeur annoncée sous prétexte de « on dit que » par exemple. Ce qui veut dire qu'elle se fonde sur de faits avérés et dont la mesure du possible, vérifiable par tous. Et elle doit également être complète, qui inclut toutes les facettes de la recherche, qui définit l'objet de la recherche.
Léa, Maram et toi, vous avez donné des critères pour illustrer c'est quoi une information. As-tu des exemples à nous donner pour mieux expliquer ?
Oui, donc une information est différente d'une anecdote. Une anecdote qui est une petite histoire racontée, comme par exemple Maram s'est acheté des nouveaux stabilos.
Et je comprends que dans l'information, les sources sont très importantes. Nadine, toi qui en connais, tu pourrais nous distinguer les différents types de sources ?
On distingue deux types de sources. On a la source primaire et la source secondaire. La source primaire, c'est quand on témoigne un événement ou un document écrit, une photographie, enregistrement vidéo... Par exemple, d'après mon envoyé spécial sur, selon ce document.
Donc pour toi, une source primaire, c'est une source directe.
Oui.
Peux-tu nous parler des sources secondaires maintenant ?
Les sources secondaires font appel à plusieurs intermédiaires, comme le récit d'un média ou d'un livre d'histoire, par exemple, selon un témoin interrogé, par l'AFP, Agence française de presse. Mon grand frère n'a dit qu'un ami lui avait dit que...
Donc, ceux-là sont tous des exemples pour illustrer les sources secondaires.
Oui.
Léa, il y a aussi un autre type de source dont tu pourrais nous parler. La source anonyme. Tu peux nous expliquer c'est quoi exactement ?
Oui, donc une source anonyme, c'est lorsque des journalistes vont interroger des personnes qui sont sous couvert de l'anonymat pour les protéger, car ils pourraient, par exemple, perdre leur emploi.
Mais n'importe quelle source anonyme n'est pas sûrement fiable. Par exemple, si la BBC elle indique une information d'après une source anonyme, c'est pas la même chose que si le Gorafi le dit, par exemple. Comment on peut... comprendre la différence.
Face à un média sérieux qui présente une source anonyme, on attend qu'il vérifie ces informations et qu'il les mette en balance avec d'autres éléments de source identifiés.
Il y a finalement quelque chose qui crée un problème, c'est souvent la confusion entre une information et une publicité. Maram, peux-tu nous développer un peu et expliquer ?
Donc en fait, la pub, elle provient d'une seule source d'information et elle a souvent tendance à présenter les choses à l'avantage d'une seule personne ou d'une seule marque. Et ça a souvent une cible, donc elle est destinée à un public particulier, dans le but de faire acheter ce produit par exemple. Et il est également très important de souligner l'absence de l'esprit critique quand il s'agit d'une publicité. Donc c'est ça.
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce une information, l'importance des sources et la différence entre une information et une publicité. On va passer la parole au prochain groupe qui travaillera sur la comparaison du journalisme au 19e siècle.
Bonjour mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons parler du journalisme au 19e siècle et de nos jours. Donc, Alinor va commencer par une intervention sur le journalisme au 19e siècle.
Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'œuvre de Maupassant qui s'intitule Belle Amie, qu'il a écrite en 1885. Dans cette œuvre, Maupassant dénonce le journalisme et les travers du journalisme. Et c'est pas seulement une œuvre fictive, c'est aussi... puisque, en fait, il a été journaliste pendant qu'il a écrit ce livre. Et du coup, en fait, il a vu toutes ces choses et c'est un peu un rapport qu'il fait. Donc il dénonce le journalisme à travers un personnage qui s'appelle Bellamy et qui arrive dans un journal qui s'appelle La Vie Française, dirigé par un monsieur Walter.
Ok. Pouvez-vous nous donner des exemples des critiques de Maupassant ?
Oui, donc on nous donne plusieurs exemples de choses, que des passages dans lesquels Maupassant dénonce certains aspects du journalisme. Par exemple, on nous dit que le patron, donc M. Walter, était un homme d'argent et que donc son objectif était de gagner de l'argent, que la presse avait été un levier pour sa carrière et donc que le journalisme, c'était donc une affaire d'argent, une affaire commerciale et qu'il n'était pas vraiment intéressé dans le journalisme, il voulait pas réellement faire passer ses idées, qu'il choisissait ses employés pour qu'ils soient retors, audacieux, souples, vicieux, malins, etc. Et donc, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Boisrenard. Je cite le livre. Il avait une grande loyauté professionnelle et il ne fut point prêt à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête et correcte. Cet employé se fait licencier. Donc, on peut en tirer que les journalistes comme ceux-ci qui sont loyaux, honnêtes, qui n'écriraient pas des choses qu'ils ne voudraient pas écrire, n'ont pas leur place dans le journalisme puisqu'ils ne peuvent pas être corrompus, donc c'est pas intéressant pour les patrons des journaux, et donc ils n'ont tout simplement, donc c'est plutôt les journalistes malins et vicieux qui ont leur place. Ensuite, une autre chose, c'est qu'ils disent que dans un journal, tout le monde doit trouver quelque chose d'intéressant, donc une ligne qui va leur donner envie d'acheter le journal. Donc encore une fois, c'est qu'une affaire d'argent, ils veulent pas vraiment faire passer une idée et la défendre, c'est plutôt parler de tout, toucher un grand public pour que le plus de gens possible achètent leur journal. Et enfin, ils dénoncent la corruption et le fait que les politiques se mêlent dans le journalisme pour que les articles soient en leur faveur. Donc, par exemple, M. Laroche-Mathieu, qui est un politicien, était l'âme du journal et du roi, donc le journaliste, était son porte-voix. Donc, c'est Laroche-Mathieu qui dicte un peu au journaliste ce qu'il veut faire passer à travers le journal de La Vie Française. Ensuite, que le ministre des Affaires étrangères régnait presque en maître dans la maison, que Duroy demandait à Laroche-Mathieu s'il devait changer son article, donc encore le ministre... que Duroy, il n'écrivait pas vraiment sur ce qu'il pensait, ce qu'il pensait des politiciens réellement, mais c'est plutôt les politiciens qui faisaient un peu leur publicité à travers le journal. Et enfin, que le président du Conseil et le ministre des Affaires étrangères sont liés au journal par amitié. Donc voilà encore que ils sont trempés dans le journalisme.
Alinor, pouvez-vous nous donner votre avis par rapport à ce journalisme du 19e siècle ?
Le journalisme, donc à travers cette œuvre, Maupassant dénonce les travers du journalisme, donc la corruption, la malhonnêteté, le fait que ce qu'on lit soit pas forcément vrai, pas forcément vérifié, que les politiques, qu'on nous monte un peu finalement, et quand on lit la charte de Munich qui a été écrite justement pour que les journalistes respectent certaines lois, et bien en fait presque tous ces exemples qui sont présents dans Bellamy vont en contre la charte de Munich.
Merci Alinor. Dans notre deuxième aspect de notre émission, Amina va nous parler, à travers la charte de Munich, du journalisme au XXe et au XXIe siècle. Et Amina, selon vous, pouvez-vous nous donner votre avis sur le journalisme du XIXe siècle ?
À mon avis, il est difficile de répondre pour l'ensemble du XIXe siècle, mais je peux parler du roman de Maupassant, Bel Amier. Le président du Conseil et le ministre des Affaires étrangères sont liés au journal par amitié, au point que la source des informations politiques du journal relève la simple dictée. Il ne faut jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire. N'acceptez aucune consigne, directe ou indirecte, les annonceurs. Je vais donc citer des articles dans la charte de Munich en contradiction avec le journalisme du XIXe siècle. On a les déclarations des droits, il faut respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Les déclarations des droits. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. Elle doit être au moins consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction. En conclusion, au contrairement au XIXe siècle, le journaliste a maintenant des droits écrits et approuvés dans la charte de Munich. Il peut ainsi les revendiquer. Le journaliste a un peu plus de pouvoir et n'est pas à la nécessité de son employeur.
Merci Amina pour votre intervention. En conclusion, on peut conclure qu'il y a eu beaucoup d'améliorations depuis le XIXe siècle par rapport au journalisme avec l'aide de la charte de Munich de 1971. Mais on peut noter que désormais nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux et cette arrivée de nouvelles technologies a chamboulé le journalisme. Donc tout le monde peut se revendiquer journaliste, notamment sur les réseaux sociaux ou à travers un blog, en véhiculant parfois des fake news intentionnellement ou pas.
Je m'appelle Zoé, je suis en présence de Mathis et Lisque. Nous allons vous parler des fake news. Alors, qu'est-ce qu'une fake news ? C'est une information fausse ou truquée qui est divulguée par différents organismes, des médias ou des individus lambda. Ils le font pour induire en erreur le lecteur afin d'obtenir un avantage, que ce soit financier ou politique. Nous avons effectué un travail sur les fake news et vous raconter les conséquences qu'il y a sur le lecteur qui lit ces fake news en vous donnant deux exemples, comme Alain Juppé concernant la construction d'une mosquée, ainsi que Michael Jackson avec deux anecdotes, un concert à Budapest où nous avons récolté quelques témoignages au 15 juillet 2014, ainsi que des vidéos de lui à l'aéroport de Budapest partant pour Vienne. Niske, pouvez-vous nous raconter pour Alain Juppé ?
Alors, lors d'une émission diffusée par France 3, Alain Juppé a affirmé qu'il avait fait construire la plus grande mosquée d'Europe. Il a dit qu'on l'appelait le grand mufti de Bordeaux et qu'on l'avait accusé d'être salafiste.
Mathis ?
Donc, pour vous contredire, Alain Juppé n'a jamais dit cela, mais il a en fait dit que c'était un militant qui avait publié une fausse information qui lui concernait en disant qu'il avait fait construire la plus grande mosquée d'Europe.
Donc c'est paru sur un réseau social ?
Oui, c'était sur Twitter. Et qu'on l'appelait aussi Ali le grand mufti de Bordeaux et qu'on l'accusait d'être un salafiste. Et c'est un internaute qui a modifié cette vidéo pour lui faire dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit.
On va écouter Lisque pour Michael Jackson au concert apparemment d'Ibrahim Malouf.
Donc Michael Jackson, selon Alice, 24 ans, était aperçu au concert d'Ibrahim Malouf. Ça aurait été le 15 juillet 2014 à Budapest. Un autre témoin l'a vu habillé simplement d'un jean noir et de chaussettes.
On n'a pas le nom de l'autre témoin ?
Celui-ci, non, c'est un témoin anonyme qui nous le dit. Okay. Donc, il l'a vu habillé d'un jean noir et des chaussettes claquettes aux pieds. Dominique l'a vu, elle, ce même jour, dansant sur des airs de trompette. Et si l'on cherche sur Internet, on a aussi trouvé des vidéos de Michael Jackson à l'aéroport de Budapest en voyage pour Vienne.
En réalité, Michael Jackson il est mort le 25 juin 2009 à cause d'une overdose de médicaments. Et il y a une cérémonie privée qui a été organisée au Forest Lawn Memorial Park, puis au Staples Center à Los Angeles. Il y a eu une autre cérémonie publique où 17 500 personnes s'y étaient rendues. Et le 7 juillet 2009, 700 000 personnes sont descendues dans les rues afin de rendre hommage à la plus grande star de la pop. Pour en revenir à la vidéo, il s'est en fait avéré que cet homme était un sosie de Michael Jackson et que les internautes l'avaient confondu.
Donc concernant ces deux histoires, on voit bien pour Alain Juppé que ça a été truqué et que c'est complètement une autre histoire qui a été racontée. Et pour Michael Jackson, c'est un peu stupide de dire ça, puisque il est vraiment mort et tout le monde le sait. Maintenant, je vais vous raconter comment reconnaître une fake news. Donc d'abord, il faut regarder qui publie l'information, et souvent si c'est un compte ou une personne non connue ou non officielle, on peut peut-être supposer que c'est une fake news. On peut aussi regarder s'il y a un but. S'il n'y a pas forcément de but précis, on ne peut pas forcément y croire, ou c'est moins évident pour nous. Comment lutter contre ? En allant sur des sites officiels et en vérifiant par la suite à l'aide de plusieurs plateformes comme les journaux, les sites web et aussi le Décodex, qui est un instrument créé par Le Monde, le journal Le Monde, pour repérer les fake news. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions tous les élèves de littérature et société, Maï, Maram, Léa, Nadine, Amina, Sarah, Aliénor, Lisque, Mathis, Farah et moi-même Zoé, ainsi que nos professeurs, M. Agrigné et Mme Medini, qui nous ont encadrés. Nous espérons que cette émission vous a plu et que cela vous donnera envie d'approfondir le sujet.